Amen. Et comme le frère vient de prier là, donc après les cultes, ce n'est pas une occasion de prendre congé de la parole. Après les cultes, la parole doit continuer jusque dans nos maisons. Ça doit continuer jusque partout où nous nous retrouvons. Si on fait ça, on va voir des choses. Le problème, c'est que souvent, nous prenons congé de la parole et tout s'arrête à l'assemblée. Et c'est ainsi que beaucoup de choses ne se manifestent pas. Parce que ici, c'est juste un peu de temps pour essayer de nous exercer, mais le tout doit se jouer après, dans nos quartiers, dans nos maisons. Voilà. C'est là où nous devons mettre en pratique la parole. Que le Seigneur bénisse notre frère pour avoir prié ainsi. Et vraiment, nous avons grandement besoin de ce feu-là. Que Dieu puisse mettre ce feu dans nos cœurs. Et que cet esprit laodicéen de manque de zèle pour les choses de Dieu puisse nous lâcher complètement. Nous voulons vraiment voir notre Dieu dans sa puissance de résurrection. C'est notre droit inaliénable. Amen. Puisque si nous sommes des affaires de Dieu, c'est que nous devons manifester les choses de Dieu. Comme les petits des chèvres manifestent les choses des chèvres, nous aussi, nous devons les manifester. Et si nous devons les réclamer jusqu'à ce que nous puissions les voir. Il ne faut jamais se fatiguer avant qu'on puisse voir les choses du royaume défiler dans notre vie. Notre vie doit être tout un défilé de surnaturel. Alléluia. Nous allons nous mettre debout pour lire la parole de Dieu. C'est comme Zachée. Zachée était venu tout seul à l'église là-bas. En tout cas, j'ai toujours passé à ça. Mais il vit à l'église, mais il est retourné avec Jésus jusque dans sa maison. Que Dieu nous accorde de telles grâces aussi, afin que nous puissions retourner avec la personne de Jésus dans nos maisons. Amen. Alors, nous allons lire dans Ézéchiel. Ézéchiel au chapitre 36, et ça sera au verset 23. Je lis. Je sanctifierai mon grand nom. Je vous retirerai d'entre les nations. Je vous rassemblerai de tous les pays. Amen. Que le Seigneur ajoute ses bénédictions à la lecture de ses paroles. Nous allons prier. Dieu notre Père, vraiment nous avons besoin de ce feu qui vient de toi pour nous transformer complètement, afin que nous puissions te ressembler. Et que, Seigneur, celle qui nous voit dans nos quartiers, dans nos lieux de service, puisse nous reconnaître pour avoir été avec Jésus. C'est ce qui s'est passé avec les apôtres, Seigneur. Les apôtres en question, c'était des hommes de même nature que nous. Cela veut dire que tu peux aussi le faire pour nous, Seigneur. Nous continuons à les réclamer auprès de toi. Nous savons qu'en nous, il y a encore tellement de choses qui nous empêchent de voir cela. Et nous venons auprès de toi, miséricordieux Père Céleste, de nous te demander de nous regarder avec tes yeux de miséricordieux. Pardonne nos fautes, nos manquements, Seigneur. S'il y a des choses qui pourraient t'empêcher de faire, les choses comme celles que tu faisais avant la crucifixion, ô Dieu, aie pitié de nous et aide-nous à réparer ce qu'il faut réparer. À nous repentir, là, il faut se repentir, Seigneur. Et aide-nous aussi à avoir la haine du péché. C'est au nom de Jésus que j'ai élevé ici ma voix vers toi. Amen. Alléluia. Nous pouvons nous asseoir. Alors, je vais encore relire un peu comme d'habitude. Je Ça commence par je. Et ce je-là, c'est l'Éternel lui-même, le créateur de l'univers visible et visible. Il dit quoi? Il dit, je vous retirerai d'entre les nations. Il dit encore, je vous rassemblerai de tous les pays. C'est lui-même qui le fait. Donc, c'est une action entièrement divine de nous retirer d'entre les nations. Il est allé ramasser vers Salle, peut-être là-bas, Excel, dans une poubelle. Il ramasse un autre, peut-être ici à Forêt. Alors, il vit avec tous ces vers sales ici et il se prépare pour les nettoyer. Et là, c'est Dieu qui le fait. Nous n'avons vraiment pas cherché Dieu, celui qui est allé nous chercher. Que son nom soit loué. Amen. Alors, donc là, c'est pratiquement la justification. Pour dire que c'est lui qui justifie. Ce n'est pas un homme qui le fait. Il n'y a que lui, le je suis. Alors, continue. Je vous ramènerai dans votre pays. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai à vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Voyez, partout là, c'est je. C'est donc encore lui dans cette deuxième étape et qui parle de la purification. C'est donc la sanctification. C'est pour encore vous dire que c'est lui qui est à la base de la sanctification. Personne ne peut se sanctifier soi-même. Lui nous sanctifie en utilisant des moyens très, très efficaces et qui est la parole de Dieu. Il a dit déjà, vous êtes purs par la parole qui vous a été annoncée. La parole de Dieu, mine de rien, a ce pouvoir-là de nous sanctifier. Amen. Pourvu que nous puissions vraiment être humbles vis-à-vis de cette parole. C'est toujours lui donc, même dans l'étape de sanctification, c'est toujours notre Dieu qui fait ce travail. Alors, il continue. Je mettrai mon esprit à vous et je ferai que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Encore toujours le jeu. Ici, maintenant, vous voyez, c'est différent. Avant, c'est un esprit nouveau, un cœur nouveau. Mais ici, c'est mon esprit. Donc, c'est le Saint-Esprit. C'est l'Esprit de l'Éternel. Ici, donc, c'est le baptême du Saint-Esprit. Et encore là, c'est toujours lui. C'est le jeu. Il n'a pas dit, ah, c'est frère Branham qui va mettre son esprit. Non. C'est je, c'est moi-même l'Éternel. Amen. Donc, justification, sanctification, baptême du Saint-Esprit, tout ça, c'est l'œuvre de Dieu. C'est lui qui fait toutes ces choses. Alors, vous voyez que ça facilite les choses. C'est vraiment... Et ça facilite vraiment tout. Et la vie chrétienne, avec ça, semble vraiment être une vie facile, puisque c'est quelqu'un qui vient faire tout ça. Alléluia. Maintenant, c'est ici que d'ailleurs, quelque part, il est dit, mes commandements ne sont même pas pénibles. Cela est écrit dans 1 Jean 5, 3. Donc, la vie chrétienne, finalement, n'est pas difficile. Mais, il y a une prédication que le bien-aimé frère Branham a prêchée. Ce qui est vraiment étonnant, mais pourquoi avec tous ces je, la vie chrétienne semble être très difficile. C'est ça le sujet de la prédication aujourd'hui. C'est toujours dans la sanctification, bien sûr, c'est puisque vous savez ce qui s'est passé dans la sanctification. combien Moïse a eu des problèmes avec les affaires d'Israël. Avec les affaires d'Israël, il avait toujours, ils étaient même prêts à le lapider. C'est, donc, ça semble difficile, la vie chrétienne. Mais pourquoi? C'est ça, ça sera le sujet. Pourquoi beaucoup de chrétiens trouvent-ils si difficile de mener la vie chrétienne? C'est quand même difficile à comprendre. Et c'est une prédication qui a été prêchée par le frère Branham le 3 mars 1957. Alors, comment il a eu cette pensée, cette inspiration? C'est parce que, justement, lui, il était pasteur, vous savez. Donc, il avait des rapports sur des frères, sur des sœurs, comme les diacres ont souvent des rapports aussi sur nos façons de nous comporter. Alors, il a constaté qu'il y a 3 catégories déjà dans les assemblées. Il y en a qui sont, on dirait toujours, hein, au sommet, qui ne créent pas tellement de problèmes aux diacres, chez qui les diacres ne viennent presque pas parce que, bon, ce frère, bah, il n'est pas tellement compliqué. C'est un frère qui est tout le temps dans les tops. Mais il y a d'autres qui créent tellement de problèmes aux diacres. Le diacre doit toujours passer. Il y en a qui sont dans les hauts, dans les bas, dans les hauts, dans les bas. Ah. Il y en a une troisième catégorie qui sont pratiquement toujours là, dans la vallée. Alors le frère Branham a dit, mais comment ça se paye encore que la situation puisse se passer comme ça? Et c'est ce qui lui a donné l'inspiration. Bon, nous allons prêcher, on ne peut pas prêcher comme frère Branham, mais on va aussi essayer de répondre à cette question-là, pourquoi? Mais avant d'aller plus loin là, une petite introduction. Je voudrais relire un peu la dernière partie de ce que nous avons lu là. Donc, c'est ici. La Bible ici. Bon, alors, oui, je répondrai ici de suite, je mettrai... Ah oui. Et, oui, je ferai que vous suiviez... Oui, je ferai tout pour... venir pratiquer la parole de Dieu à votre place. C'est pas ça. Ce n'est pas ce qui est écrit ici. Mais c'est vous qui devez pratiquer mes lois. Parce que lui, il a tout, il vous a équipé dans la justification. C'était lui. Il vous équipe dans la sanctification. C'est toujours lui. Dans le baptême du Saint-Esprit, il vous a tellement équipé que vous devez pratiquer la parole. Vous avez tous les moyens pour pratiquer la parole de Dieu. Parce que l'Éternel vous a donné tous les moyens. Dans la justification, dans la sanctification, dans le baptême du Saint-Esprit. Alors, à vous de pratiquer. Il ne viendra pas pratiquer à votre place. Puisque c'est comme un mariage. Hein? Hein? La femme aime, l'homme aussi aime. Dieu ne peut pas venir aimer Dieu à notre place. C'est nous qui devons l'aimer. N'est-ce pas? Alléluia. Amen. Alors, c'est ça donc. Lui ne fera pas ça à notre place. Mais malheureusement, ce qui est difficile, c'est que nous pensons que souvent, voilà, comme je manque de la tempérance, il y aura un paquet, comme le frère François l'a toujours dit, il y aura un paquet de tempérance que Dieu va faire descendre sur moi et je vais avoir la tempérance. Il ne fera jamais une chose comme ça. Il a sa façon de faire pour que vous ayez la tempérance. Et on l'a déjà dit plusieurs fois ici. Il va mettre à votre côté, par exemple, un frère très, très difficile, une sœur très difficile, et à vous maintenant de le supporter. Là, plus vous supportez ce frère, plus vous supportez cette sœur-là, plus L'esprit de tempérance est en train de vous vêtir, donc de vous remplir. C'est question d'obéir à ce que le Seigneur te demande de faire. Alléluia. Et voilà, c'est ça qu'il avait fait à Moïse. Hein? Vous savez que Moïse, qui avait tué un Égyptien, c'était par manque de tempérance. Il vient tuer un Égyptien. Ce n'est pas ce qu'on demande à un prédicateur. Ce n'est pas parce qu'il est égyptien, ce n'est pas parce qu'il est païen, parce qu'il est mal habillé qu'on doit le tuer, mais on doit lui apporter la vie. On doit lui parler de celui-là qui peut l'aider, le Seigneur Jésus-Christ. Mais il manquait de tempérance. Alors Dieu a dit non, je sais ce que je ferai de ce garçon. Puisque c'était son garçon, c'était son fils. Et alors, je vais mettre à ses côtés une femme très difficile. Et c'était Séphora. La femme dure de caractère. C'était pour former le caractère de Moïse. Alors, quand Moïse a rencontré le Seigneur, voilà. Moïse était un homme tout changé. Au point qu'un jour, d'ailleurs, l'Éternel, tellement qu'il y avait des problèmes dans le désert, l'Éternel, un jour, a proposé de détruire tout Israël. Il dit, Moïse, je vais détruire ce peuple. En tout cas, j'en ai marre. Ce peuple court aide et je ferai de toi une nouvelle nation. Moïse a dit, mais pourquoi tu dois détruire ce peuple? Et que diront les Égyptiens? Puisque les Égyptiens savent que tu as fait sortir ce peuple avec vraiment de gros miracles du pays d'Égypte. Maintenant, au désert, tu les détruis. Il dit, si tu veux faire une telle chose, commence maintenant par moi-même. Il faut d'abord me tuer avant de tuer ce peuple. Ah, vous voyez que Moïse était tout transformé. Si c'était avant, il allait dire, oui, c'est un peuple au courant éternel, allez, il faut le tuer. Ça, ce n'est pas justement l'Esprit de Christ qui peut pousser quelqu'un à faire ça. Vous savez que les apôtres, eux aussi, ont été même tentés par ça. Et voulez-vous que nous puissions faire descendre du feu du ciel pour brûler ce village? Jésus-Christ a dit, mais vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animé. Donc, il faut de la tempérance. Alors, Moïse en a eu, justement. Puisque Dieu sait vraiment nous aider pour que nous ayons les choses du royaume. C'est lui qui fait tout ça, mais à nous de les pratiquer maintenant. Amen. Alors, il y a aussi la pratique. Donc, que vous mettiez à pratique la parole. La parole de Dieu, ce n'est pas une chose qu'on doit juste répéter comme ça. La volonté de Dieu est que nous puissions mettre en pratique ce que nous sommes en train de prêcher, nous sommes en train d'écouter de toutes les façons, et surtout les prédicateurs, ça ne sert à rien de prêcher, si nous ne vivons pas ce que nous sommes en train de prêcher. Ça n'aura pas tellement d'impact, ça. Donc, la Bible le dit, bon, on peut quand même lire ça, Romains 2. 21. Romains 2, 21. Donc, vous savez que c'est la vie qui parle beaucoup plus fort que tout ce que nous pouvons faire sortir de nos bouches. Quand vous avez la vie, alors ça va plus impacter les personnes à qui vous êtes en train de parler. Alléluia. Alors, Romains 2. Romains 2, verset 21. Je peux lire ça quand même. Toi donc qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Tu dois d'abord t'enseigner. Toi qui prêches de ne pas dérober, tu dérobes. Toi qui dis de ne pas commettre adultère, c'est comme le fils d'Élie là. Il commettait adultère, mais je ne pense pas qu'il disait, quand il prêchait, qu'il disait qu'il faut commettre adultère. Toi qui qui dit de ne pas commettre adultère,
tu commets adultère.
Maintenant, qui va te suivre quand tu es en train de vivre comme ça? Ça n'aura aucun impact. Donc, la pratique de la parole de Dieu, c'est la chose qui peut nous aider vraiment à transformer l'Église. Car même les gens de l'extérieur nous voient pratiquer la parole, ils vont commencer à dire, non, j'irai dans cette Église-là. Puisque c'est la pratique-là, la vie qui va leur parler plus que tout ce que nous pouvons leur dire. Et c'était ça le problème des pharisiens. Les pharisiens, ils disaient des choses, mais ils ne pratiquaient pas. Seulement prêcher, mais ne pratiquaient pas. Alors, comme conséquence, il n'y avait pas tellement de puissance qui se manifestait au milieu d'eux. C'était juste des écritures mémorisées là-bas, la loi de... Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça qu'on nous a appelés. On nous a appelés à démontrer la puissance de notre Dieu. Les gens doivent voir que nous avons un Dieu, celui-là qui a fait sortir Israël du pays d'Égypte, celui-là qui a ouvert la mer Rouge. C'est le même Dieu jusqu'à cette seconde ici. Il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, pour toujours. Si nous pouvons tout simplement faire les choses sérieusement, nous allons voir ça. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour tromper. Alléluia. Amen. Alors, voilà, les pharisiens, pas de puissance. Ça, c'est la première conséquence. Puisque ils disaient des choses, mais ils ne pratiquaient même pas. Deuxième conséquence maintenant, ils voient quelqu'un qui a de la puissance, le Seigneur Jésus-Christ. Celui-là qui met du sérieux dans la parole de Dieu. Mais il y a la puissance qui l'accompagnait. Ah, quand ils voient ça, ils s'étonnent. Mais ça ne peut pas être étonnant. Y a-t-il quelque chose d'étonnant de la part de l'Éternel? Quand il y a un miracle, c'est normal pour les enfants de Dieu. Ce n'est pas quelque chose d'étonnant puisque c'est ça une des caractéristiques de Dieu. C'est du surnaturel. Ils commencent à s'étonner. Ce qui est très très grave, ils disent non, ça ne doit être que le diable qui fait ça. Ah! Mais comment on peut donner au diable beaucoup plus de puissance qu'au Créateur? Si le diable peut faire quelque chose, alors le Créateur, il doit faire des choses beaucoup plus et beaucoup plus importantes. Parce que ce qu'on appelle le diable là, c'est seulement un ange dessus qui avait été créé par Dieu. Maintenant, ils appelaient Jésus-Christ Belzéboul. Ah, il fait tout ça avec la puissance du diable. C'est vraiment terrible que les gens puissent avoir de tels raisonnements, donner beaucoup plus de puissance au diable qui n'est qu'une créature et moins de puissance à Dieu qui est le créateur. Ah non. Voilà. Comme conséquence encore, comme ils ne prenaient pas les choses au sérieux, c'est maintenant la jalousie. Ils étaient trop, trop jaloux de Jésus. Puisque Jésus opérait des choses qu'ils ne pouvaient pas. Voilà. C'est parce qu'ils ne prenaient pas les choses au sérieux. Toujours jaloux, jaloux. Et autre chose, maintenant, quand quelqu'un allait écouter Jésus, il dit non, il ne faut pas aller écouter telle personne. Mais où est-ce que Jésus vous interdisait d'aller écouter même les pharisiens? Non. D'ailleurs, il disait, écoutez, faites ce qu'ils disent, mais ne faites pas ce qu'ils font. Jésus ne vous est. Quand vous êtes à Christ, vous avez une liberté véritable. Vous avez le libre arbitre. Je vous vois ici. Est-ce que Jésus est passé vous demander de venir à l'église? Non. C'est votre libre arbitre. Hein? Vous pouviez rester à l'église, à la maison. Et Jésus ne pouvait pas aller vous forcer, non. Parce que Jésus nous a donné le libre arbitre. Nous venons à l'église puisque nous l'aimons tout simplement. Il n'y a rien qui nous oblige. mais c'est l'amour de Dieu qui presse dans nos cœurs et qui fait que nous puissions venir à l'église. N'est-ce pas? Amen. Alors donc, et justement, comme ils n'avaient pas la chose vraie, ils essayaient de presser les gens et disaient, voilà, il y a par exemple ce jeune homme-là, l'aveugle né. Jésus ouvre les yeux de ce garçon-là, mais ça devient un problème. On a embêté le garçon, on lui a posé des questions. Mais comment il a fait ça? Comment? Mais je vous l'ai déjà dit, qu'est-ce que vous voulez? Mais il m'a ouvert les yeux. Mais oui! Donc c'était quelque chose d'extraordinaire pour eux, alors que pour un enfant de Dieu, c'est normal. Parce qu'il est enfant de Dieu. Amen. Merci. Voilà. Donc, je ferai. On va maintenant peut-être aller dans le vif. Donc, pourquoi beaucoup de chrétiens trouvent si difficile de vivre la parole de Dieu? D'abord, là, ce qui est étonnant, c'est beaucoup. Beaucoup de gens qui viennent à l'église trouvent que la parole de Dieu, c'est une grande charge. On peut vous le démontrer. Hein? Ce n'est pas. La Bible nous le montre clairement. On peut lire dans c'est Histoire de Gédéon. Juge 7. Juge 7, on va commencer au verset 3. Que celui qui est craintif et qui a peur, la peur, ça retourne et s'éloigne de la montagne de Galade. Voyez maintenant, 22 000 hommes parmi le peuple s'en retournèrent, il en resta 10 000. Donc 22 000 sur 32 000 trouvaient que non, mais la vie chrétienne est très difficile dans l'assemblée de Gédéon. Ils avaient peur des combats, alors que la vie chrétienne, c'est un combat, parce que nous avons un ennemi qui est devant nous. À partir du moment où nous avons pris position pour Jésus-Christ, il faut savoir que le diable est là pour tout le temps vouloir nous empêcher de faire ce que Dieu nous demande de faire. C'est donc un combat. Mais 32, c'est combien là? 22 000 personnes. Cela veut dire que le total était 32. Voilà. Donc, 22 000 personnes trouvaient que c'est difficile. Voilà. On continue maintenant. L'Éternel dit à Gédéon, « Le peuple est encore trop nombreux. Fais-le descendre vers l'eau. Et là, je t'en ferai le triage. Celui dont je te dirai, que celui-ci aille avec toi, ira avec toi. Et celui dont je te dirai, que celui-ci n'aille pas avec toi, n'ira pas avec toi. Gédéon fit descendre le peuple vers l'eau. Et l'Éternel dit à Gédéon, tous ceux qui lapperont l'eau avec la langue, comme lapent les chiens, tu les sépareras de tous ceux qui se mettront à genoux pour boire. Ça, c'était un secret entre l'Éternel et son prophète ou et son serviteur Gédéon. Il dit, voilà, il y a un truc. Donc, il y aura sans doute ceux-là qui vont commencer à boire comme les chiens. Il y a d'autres qui vont s'agenouiller. Maintenant, moi, je vais choisir ceux-là qui vont boire comme boivent les chiens. Voilà, c'est ça donc la révélation. On n'a pas dit ça à ces gens-là. Mais curieusement, il y a eu des gens qui vivaient comme ça. Ce n'est pas le prédicateur Gédéon qui leur a dit ça. C'était la révélation. Il y a eu 300 personnes qui ont justement bu comme le Seigneur voulait que ça se passe. Donc, dans toute prédication, il y a des choses que seul le Seigneur va vous dire. Il va vous révéler. Et c'est ça pour vous, la révélation. Et quand vous avez la chose, Vous avez la chose la plus solide qui puisse exister. La chose dont Jésus a parlé à Pierre. Sur ces rocs de la révélation, je bâtirai mon église. Et les forces du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Alléluia. C'est ça dont nous avons grandement besoin. Donc, on peut prêcher de toute l'année comme ça, ou de 1er au 31, si vous n'avez pas capté cette petite voix pour toi, c'est encore rien. Vous n'aurez pas la foi. Ce qui donne la foi, c'est ça. C'est Dieu qui vous parle au travers de ce que vous avez lu, au travers de ce que vous avez écouté, au travers même de la nature, au travers de l'histoire. Dieu parle tout le temps. Question seulement d'écouter, d'être attentif. Alléluia. Amen. Voilà. Donc, ces gens-là qui ont commencé à boire comme ça, ils ont capté une petite voix qui leur a dit, mais buvez comme ça. Et là, ce n'est pas Gédéon qui leur a dit ça. Ce n'est pas le prédicateur. C'est Dieu lui-même. Les autres se sont peut-être dit, non. Dieu, parfois, nous demande de nous agenouiller pour prier. Donc, moi, je vais me mettre à genoux. Notre Dieu est inhabituel. Ces jours-là, ce n'était pas ça. Pour lui, il ne fallait pas se mettre à genoux. Il fallait rester comme les chiens, comme ça. Donc notre Dieu est inhabituel. Il ne faut pas l'emprisonner comme ça dans des cages. Donc il fait des choses inouïes, des choses inédites, des choses auxquelles vous ne pouvez pas vous attendre. Il faut seulement venir dire, Seigneur, parle-moi. Seigneur, fais-moi ce que tu veux. Fais de moi ce que tu veux. Amen. Alors là, il le fera. Il aime vraiment qu'on puisse justement le mettre à l'épreuve comme ça. Amen. Voilà. Donc, vous voyez, cela montre justement que maintenant, il y a eu 300 personnes qui ont bu comme les chiens. Alors, si nous faisons le total, il y a les 22 000 personnes qui étaient des craintifs. Il y a 10 000 moins 300, ça fait 9 700 qui avaient une foi intellectuelle. Ça, on appelle ça une foi intellectuelle. Donc, tu fais les choses selon tes propres pensées. Tu ne fais pas des choses sur base de la révélation. N'est-ce pas? Alors, si nous faisons les calculs, nous avons 31 700 personnes faisaient et donc trouvaient que la vie chrétienne n'est pas facile. Puisqu'aussi longtemps que vous ne faites pas les choses par révélation, ça sera très difficile. C'est la révélation qui facilite les choses. C'est par exemple, Dieu peut te révéler, dit bon, va prier pour tel frère qui est à l'hôpital. Frère Branham me disait que déjà quand il me dit ça, je suis déjà dans la joie. Puisque je sais que ça doit obligatoirement s'accomplir. Il pouvait le dire d'ailleurs. Il dit, si cet enfant ne ressuscite pas, prenez une pancarte sur moi. Il écrivait faux prophète. Parce qu'il avait la révélation. Vous voyez, ça facilite beaucoup les choses. Mais ça, c'est là, mais quand nous allons dans le tâtonnement, là, c'est ainsi qu'on dit, mais je suis allé prier, mais il n'y a pas de guérison. Ouais, ça commence à décourager. Et ça devient difficile comme ça, la vie chrétienne, sans révélation. Donc, une affaire de 99,1% trouve la vie chrétienne très difficile. Voilà. Puisqu'il y a la peur, il y a le manque de révélation. C'est ça. Ce sont ces deux choses-là. Et Frère Branham disait que la peur, c'est une des grandes malédictions sur l'Église. Donc, le manque de courage d'exercer sa foi. La foi doit s'exercer. Alors, quand on a peur, il n'y aura pas d'occasion pour exercer cette foi-là. Amen. Que Dieu nous donne ce courage. Maintenant, on peut peut-être y aller aux autres des choses. Nous allons maintenant nous demander pourquoi. On va entrer dans le détail de pourquoi. La question de pourquoi signifie pour quelle cause. La cause de toute chose, c'est quelque chose de très important. Donc, par exemple, un médecin, pour traiter une maladie, il doit d'abord chercher la cause. C'est ce qu'il fait à l'hôpital. On appelle ça le diagnostic. Il ne va pas vous donner directement le médicament. Parce que s'il donne, il risque de commettre beaucoup d'erreurs. Parce qu'il y a des maladies qui ont pratiquement un peu plus les mêmes symptômes. Par exemple, le paludisme présente, donc quelqu'un qui est atteint du paludisme a la fièvre. La typhoïde, fièvre. La grippe, aussi fièvre. Maintenant, toi, tu vas donner, comme il y a la fièvre, tu vas penser peut-être que c'est le paludisme, alors que c'est peut-être la grippe. Et alors, tu vas commettre une grave erreur. C'est ainsi qu'il faut justement chercher la cause. Et là, c'est ce que nous sommes en train de chercher. La première raison pour laquelle, bon, on a déjà vu ça un peu là-bas, dans ce que nous venons de lire avec l'histoire de Gédéon, mais nous allons lire dans l'autre écriture. La première raison qui peut être donnée, c'est dans Éphésiens. Éphésiens 4, 14. On peut voir ça. Éphésiens 4, 14. Éphésiens 4, 14, qui dit ceci. On commence directement. Afin que nous ne soyons plus des enfants. Ça, c'est un grand problème dans les églises, c'est qu'il y a beaucoup qui sont encore à ce niveau-là, d'enfants en Christ. Beaucoup qui sont peut-être déjà, qui sont bloqués à ce niveau et qui ne progressent pas. Ça, c'est une des raisons pour lesquelles vous allez voir vraiment beaucoup trouver la vie chrétienne très difficile. Ils sont encore des enfants à Christ. Est-ce qu'être enfant, c'est mauvais? Non. Ce n'est pas mauvais d'être enfant. Car un enfant vient au monde et tout le monde est dans la joie. Ce qui est inquiétant, c'est que 20 ans, 30 ans, vous manifestez toujours les caractéristiques d'un enfant. Alors les parents commencent à s'inquiéter, commencent à pleurer. Mais notre enfant ne grandit pas. On ne nous a pas mis au monde pour que nous puissions rester des enfants. C'est pour que nous puissions grandir. Et vous savez que notre premier parent, c'est Dieu lui-même. Si nos parents dans ce monde ici doivent s'inquiéter, à combien plus forte raison notre Seigneur. Dieu, si on peut parler un langage humain, Dieu s'inquiète beaucoup car il voit que nous ne progressons pas, que nous restons toujours des enfants. Là, il avait dit en utilisant Paul, son serviteur, dans Hébreux, hein, que nous connaissons bien Hébreux 5. Hébreux, il dit ceci. Hébreux 5. Nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles. Dieu, comme je l'ai dit vers le début là, Dieu a tout le temps des choses à nous dire. Et d'une manière ou d'une autre. Mais avec un esprit d'enfant là, qui est un esprit flottant, on n'est pas, on n'a pas l'essence de se tranquilliser, puisque vous, nous avons donné cours aux enfants, mais la faille, on a difficile à les tranquilliser, donc il veut toucher à ça, il y a ça, il y a ça. Hein? Voilà, c'est un esprit d'enfant. Donc, il a un esprit flottant. Ça, avec cet esprit-là, l'enfant ne capte pas ce que Dieu a à lui dire. Parce que peut-être que Dieu t'a déjà parlé depuis le matin en disant, bon, mon fils ou ma fille, tu dois aller prier pour telle personne. Mais tu n'as pas capté. Tu n'as pas capté ce qu'il t'a dit là. Parce que tu es touché à tout. Tu es dans le téléphone, tu es dans ceci, tu es dans ça. Tu as un esprit flottant. Voilà. Donc, nous avons beaucoup à dire là-dessus. Et Jésus l'avait dit dans Jean. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. À ce moment-là, ils étaient encore comme des enfants. Et Dieu a beaucoup de choses à nous dire. Mais avec cet esprit d'enfant en Christ, nous avons difficile à capter ces choses-là. Et pourtant, nous devons les capter puisque c'est ce qui va nous faciliter la tâche. Hein? Quand, par exemple, on vous dit, maintenant, mon enfant Paolo, je vous envoie à aller prier pour le frère X qui est à l'hôpital. Mais ça facilite les choses. Hein? Là, vous allez y aller vraiment avec tout le courage. Parce que vous savez que c'est l'Éternel qui vous a dit ça. Et quand c'est lui, il n'y a pas de doute, c'est fini. Hein? Vous pouvez parler comme le frère Branham qui disait, si c'est ta face, si cet homme ne guérit pas dans 5 minutes ici, alors je suis un faux chrétien. On va dire, mais tu es prétentieux. C'est comme quand frère Branham le disait là-bas à Finlande. Les gens disaient, bon, ce sont des farceurs. Mais quand ils ont vu la foi ressuscité, les militaires ont commencé à... Ils ont respecté, ils ont dit, non, ça, on n'a jamais vu ça. Oui, le monde doit voir des choses qu'ils n'ont jamais vues par nous. Amen. Alléluia. Amen. Si nous prenons les choses au sérieux. Amen. Voilà. Donc, quand nous restons vraiment enfants, alors on sera tout le temps flottant. On n'aura pas facile à capter ce que Dieu a à nous dire. Amen. Parce que Dieu nous parle toute la journée. La nuit, quand nous dormons là, comme le dit, ça on peut lire même dans Job, hein, comme c'est écrit dans Job, il nous parle par des songes, par des visions nocturnes. On peut lire ça, et donc on peut pas. Comme nous sommes flottants là, nous allons penser que non, ça c'est moi-même, c'est ma propre pensée. Non, c'est peut-être Dieu qui t'a parlé. Il y a des gens qui ont loupé des occasions comme ça. Donc, Dieu lui dit, bon, il ne faut pas monter dans ce véhicule. Donc, une pensée comme une pensée, quoi. Bon, lui, il néglige ça, il monte et il va connaître l'accident. Il commence maintenant à donner son témoignage. Et pourtant, quelque chose me disait de ne pas monter. Il dit, ah oui, c'était Dieu. C'était Dieu qui te parlait. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et alors, de manière la plus simpliste possible. Il faut avoir des oreilles de disciples pour capter ça. Amen. Voilà. Et je disais qu'il faut qu'on lise un peu ce qui est dit dans Job là. Parce que la parole de Dieu, il faut toujours la lire. Donc, Job 33 au verset 14. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on n'y prend point garde. Souvent, on ne prend pas garde à ce qu'il nous dit à cause de cet esprit flottant que nous avons. Alors, qui nous parle? Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil. Quand ils sont endormis sur leur couche, alors il leur donne des avertissements. Il met le sceau à ses instructions. afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, et ainsi de suite. Donc, il nous parle, mais à nous de capter ce qu'il nous dit. Amen. Alors, le problème, c'est que ce que nous appelons des enfants à Christ, qui ne savent pas se tranquilliser dans la prière, dans la méditation, dans les choses de Dieu, mais ce qui est étonnant, c'est qu'ils se tranquillisent pourtant devant cet appareil, cet instrument. Ils peuvent passer 10 heures de temps avec son téléphone. Mais pour passer juste 5 minutes avec Dieu, ça devient un problème. Donc, c'est pour vous dire que le diable intervient pour que nous puissions rester des enfants. Après 20 ans, 30 ans, il sait que, voilà, avec le téléphone, là, il n'aura pas le temps. Il n'aura plus le temps de prier. Il n'aura plus le temps de méditer. Et vous savez, le secret, c'est qu'il ne faut pas prendre congé de la parole de Dieu après l'assemblée. Même déjà dans l'autre salle ici. Il faut continuer à parler de lui. Ah, ça a été très bien aujourd'hui. J'aime bien le frère Philippe parce qu'après il me dit ça. Oui, c'était très bien aujourd'hui. Hein? Oui, il répète un peu ce qui vient d'être prêché là-bas. Et ça, c'est bon esprit. On continue avec ça jusque dans nos maisons. Et on parle de ça avec nos enfants et ainsi de suite. Donc, Dieu doit occuper le centre de nos préoccupations. Quand c'est comme ça, mais il va commencer à se manifester. Il n'est pas très loin de ce livre ici. Vous voyez, l'Énique éthiopien, après le culte, il lisait la parole de Dieu. L'ange est allé directement viser Philippe. Il y a quelqu'un qui s'intéresse à moi là. Il faut aller le voir. Vous voyez? À partir du moment où dans vos maisons, là, vous ouvrez seulement la Bible comme ça. Ça, ce n'est pas un livre comme n'importe lequel. Dieu n'est pas loin. À partir du moment où vous vous agenouillez dans votre maison, il n'est pas loin de là. Il est avec vous. À partir du moment où vous parlez de lui, comme les deux disciples de Maïs, alors il est là. Mais ce qui est l'étonne, c'est que nous ne parlons de Dieu qu'ici. Il faut parler de Dieu dans nos maisons. Il faut parler de Dieu partout. Ou ne serait-ce que passer à lui. Oh Seigneur, vraiment, même ici dans ce travail, c'est toi qui m'as donné ce travail. Tu as de les passer. Tout en travaillant, hein? Quand tu as de tels passés là, Dieu, justement, il sait que ça, c'est quelqu'un qui m'aime. Donc, c'est quelqu'un qui se préoccupe de moi. Alors, il va justement faire des choses qu'il a l'habitude de faire pour ses enfants. Amen. Alléluia. Et Frère Branham dit quelque chose comme ça dans la brochure intitulée « Le prophète Élisée prêchait le 23 juillet 1954, paragraphe 30. » Il dit « La raison pour laquelle nous n'avons pas de vision et que nous n'avons qu'un esprit étroit, c'est parce que nous ne prions pas assez longtemps. » Où nous ne faisons pas quelque chose assez longtemps jusqu'à ce que l'Esprit de Dieu vienne parmi nous. Nous prenons facilement congé de la parole de Dieu. Nous pensons que la parole de Dieu, on ne doit s'en occuper qu'à l'église. Non, c'est partout. Même si vous ne parlez pas, passez à Jésus-Christ. Vous êtes en train de passer à lui, à l'adorer dans le cœur. Et vous verrez que les choses vont changer. Amen. Nous allons donner une deuxième raison. Donc, c'est peut-être ça qui a donné même la peur à ceux-là, à ces 20 000 personnes-là qui avaient été craintifs. Peut-être Dieu pouvait leur dire, mais celui qui est à vous là, moi qui suis à vous, je suis plus grand que ses ennemis. Mais ils ne pouvaient pas capter ça. Ils étaient craintifs. Alors, la deuxième raison, c'est celle-ci, qui fait que les gens trouvent la vie chrétienne très difficile, alors qu'elle n'est pas difficile. Elle n'est pas difficile si on fait les choses sérieusement. On peut lire toujours dans Éphésiens, on prend Éphésiens au chapitre 4, 17. Je suis en train de voir là. Éphésiens. Donc, il est dit ici, donc, afin que... Non, verset 14. Pas 17. Non. Verset 17 plutôt, excusez-moi. 14, c'est ce qu'on a lu. 17. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus. Encore l'adverbe « ne plus ».« Ne plus » là signifie que c'est un adverbe qui marque la cessation d'inaction, d'un état. Ça doit cesser. Vous ne devez plus marcher comme les païens. Comment marchent les païens? Qui marchent selon la vanité de leur pensée. Cela veut dire que nous, les chrétiens, nous avons quelque chose de plus que nos propres pensées. Les païens, ils n'ont que ça. Ils ont bâti des villes, ils ont bâti des autoroutes, des avions, ils ont construit des avions, ils ont construit des voitures sur base juste de leurs pensées là, sur base de leurs raisonnements. Tout ce qui est fabriqué ici, c'est sur base de leur raisonnement. C'est tout ce qu'ils ont. Mais je vais vous montrer que nous avons un peu plus que ça. Nous avons un peu plus que... Nous sommes aussi des hommes comme... Nous avons aussi nos propres les passions humaines. Mais nous avons aussi quelque chose de plus. 1 Corinthiens 2, 16. 1 Corinthiens 2, 16. 1 Corinthiens 2, 16. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Donc, en plus des pensées humaines là, qui sont souvent vaines, nous avons aussi quelque chose que le monde n'a pas, ce sont les pensées de Christ. Et là, c'est fantastique. Parce qu'avec les pensées humaines, vous voyez ce qui se fait, c'est vraiment vanité de vanité. Ce n'est pas parfait. C'est tout le temps on construit, on démolit, on reconstruit. Vous voyez? C'est pour vous dire que ce n'est pas parfait. Vous voyez ce qui se fait à Bruxelles. Sur les voies de transport en commun, c'est tout le temps des travaux. C'est parce que, et soi-disant, ils veulent moderniser. Donc, ils ont trouvé, non, ce n'était pas bon ce qu'on avait fait. Maintenant, ça... c'est mieux. Ah, ça aussi, ce n'est plus bon. Et ainsi de suite. C'est tout le temps, ça sera toujours comme ça. Parce que c'est basé sur des pensées humaines. Mais la pensée de Christ ne change pas. Elle est la même hier, aujourd'hui, pour toujours. Vous voyez, par exemple, quand il a créé un oiseau, il n'a jamais dit, bon voilà... je m'étais trompé maintenant. Bon, je vais faire un oiseau avec deux paires d'ailes. Non. Depuis qu'il a créé l'oiseau là, c'est avec ces deux ailes. Il c'est parfait, ça ne change pas. Il ne peut pas changer. Et là, c'est les chrétiens ont ça. Ils ont la pensée de Christ. La révélation. Amen. C'est que la deuxième catégorie des gens ont manqué, c'est la révélation. Donc, ils ont utilisé leur une foi intellectuelle pour aller justement boire de l'eau là. Donc, ils ont utilisé une foi ordinaire. Après, la foi intellectuelle, c'est la foi que nous obtenons juste parce que le prédicateur a dit ça. Parce que nous avons lu dans la Bible. C'est parce que nous savons lire. C'est parce que nous savons écouter et réfléchir. Ce n'est pas ça, la foi authentique. Donc, en plus de ça, il faut la foi maintenant que Dieu te révèle. Dieu te parle. De telle manière que tu puisses dire, moi, ah, là, c'est Dieu qui m'a parlé. Hier, par exemple, peut-être j'étais sur le point de voler là-bas chez Aldi. Voilà que ça vient du haut de la chair. Ah, c'est Dieu qui m'a parlé. Il m'a vu. Voilà. Et là, vous aurez la crainte. Aussi longtemps que vous n'avez pas de telles choses, la crainte ne viendra pas. Amen. Alléluia. Donc, vous voyez, donc c'est aussi longtemps qu'on n'a pas la révélation, aussi longtemps qu'on a la peur, la vie difficile va, la vie chrétienne va nous sembler très, très difficile. Alors, on peut se demander, mais comment on peut avoir la révélation? Que Dieu nous donne alors la révélation pour faciliter, nous faciliter la tâche. Oui, la révélation, on peut peut-être terminer par là. La révélation, comment elle vient et à qui il donne sa révélation, c'est Jean 15. Jean 15, 15. Jésus-Christ a dit ceci. Je ne vous appelle plus serviteur. Parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami. Parce que je vous ai fait connaître. Moi-même, je vous ai fait connaître. Quoi? Qu'est-ce que tu nous as fait connaître, Seigneur? Tout ce que j'ai appris du Père. Donc, je vous l'ai révélé. Pourquoi? Parce que vous êtes mes amis. Si vous voulez, justement, recevoir cette chose-là, soyez seulement amis de Jésus-Christ. Aimez la parole. Attachez-vous à la parole. Celui qui s'attache à la parole, on les voit. Donc, son temps, c'est la parole. C'est plus pour la parole. Mais on a un temps aussi pour aller manger quand même. Là, il ne faut pas se tromper. Mais un peu plus pour la parole. Un peu plus et pour les choses du royaume. Alors quand Dieu voit ça, comme il avait dit à Abraham, il a vu comment Abraham l'avait accueilli dans sa maison, il dit, mais est-ce que j'ai encore la force de cacher quelque chose à Abraham? Il faut que je lui révèle ce que je dois faire. Et la Bible dit quelque part que Abraham était l'ami de Dieu. Il a toujours dit ça comme ça. Et il y a un autre ami de Dieu, c'était David. David qui dit, mais je suis dans la joie. Toutes les fois qu'on me dit, allons à la maison de l'Éternel. David n'était pas du genre de nous là qui traînons les pas pour venir. Mais quand c'est l'heure de l'église, allez, il pouvait peut-être courir. Il pouvait déjà se réjouir. Alors, quand l'Éternel voit ça, il dit, est-ce que j'ai le pouvoir, la force de mentir vraiment à David? Mentirais-je à David? Donc, c'est pour ses bien-aimés. Il y a un autre, c'est, peut-être on va terminer par ça, c'est Daniel. Hein? Daniel, le frère Benoît aime bien le livre de Daniel, je sais. Je pense qu'on va lire un peu ça et on va prier un peu. Daniel, c'est question d'être un ami de Dieu, alors, au lieu d'être ami du téléphone qui nous prend beaucoup de temps, alors, il y a beaucoup de choses que Dieu est prêt à nous révéler. Daniel, il est où ça encore? Je m'égare. Ézéchiel. Bon, Daniel, voilà. On va... C'était 9, hein? 12. C'est quel verset encore qui dit ça? Qu'il devait 12. Voilà, voilà, Daniel, je suis venu maintenant. Ok, c'est ça. C'est donc au verset, Daniel au chapitre 9, verset 23. Daniel, c'est l'ange qui lui parle. Je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Voilà. Donc, nous avons souvent l'intelligence là bornée. Mais il nous ouvre l'intelligence pour comprendre les choses du royaume. Lorsque tu as commencé à prier là, la parole est sortie et je suis venu te l'annoncer. Donc, c'est un message qui venait de l'Éternel. Pourquoi? Pourquoi à moi, Daniel? Car tu es bien-aimé. C'est pour ces bien-aimés qu'il se révèle. Alléluia. Nous pouvons nous mettre debout pour adorer un peu et nous terminons par là. Je vais chanter un petit cantique et vous allez chaque fois répéter peut-être. C'est lui qui est à moi et plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia. Alors vous répétez ça comme ça. C'est lui qui est à moi et plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia. Vous pouvez répéter? Que c'est lui qui est dans le monde. Alléluia. C'est lui qui est à moi et plus grand que l'adultère de ce monde. Alléluia. Alléluia, c'est lui qui est à moi et plus grand que les mensonges de ce monde. Alléluia. C'est lui qui est à moi et plus grand que le téléphone de ce monde. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu as dit que tu vas... Tu sais faire un peu de mélodie maintenant comme ça. Après, nous allons... Quand tu es en train de faire la musique sur cette eau-là, et nous allons prier que Dieu nous aide à que nous puissions lui faire confiance, puisque c'est par manque de confiance en notre Dieu que nous devenons des craintifs. Par manque de confiance que nous n'avons pas la révélation. Tu peux faire un peu de... Ça ira. Et après, je vais demander à tous, nous prions que Dieu nous assiste. Commençons déjà à prier par rapport à ce que nous avons suivi. Si Dieu nous a parlé, nous puissions lui répondre. Dieu notre Père, nous voulons te dire merci, Seigneur. Nous voulons te rendre des actions de grâce pour ce peu de temps que nous venons de passer ici. Merci pour ta miséricorde. Merci pour tes compassions qui sont multiples. Merci, Seigneur, pour ce petit moment que nous venons de passer. Un moment où tu nous demandes de ne pas prendre congé de la parole de Dieu après le culte et que la puissance de la parole de Dieu, nous puissions continuer à l'utiliser même dans nos maisons et partout où nous pouvons nous retrouver, Seigneur. Pardonne-nous toutes les fois, Père, que nous avons pris congé de toi et de ta parole, alors que c'est toi qui es notre vie, c'est toi qui es notre force. Transforme-nous complètement. Mets nos cœurs à feu. Mets nos âmes à feu. Mets nos maisons à feu. Mets l'église à feu, Seigneur. Toi qui es venu avec nous maintenant, ma prière c'est que Père, tu puisses retourner avec nous. Quel que soit l'endroit où nous allons nous retrouver, sois avec nous, mon Père. Ne permets pas que tes fils et tes filles qui sont venus t'écouter puissent retourner tels qu'ils sont venus, mais qu'ils puissent retourner avec quelque chose qu'ils doivent avoir reçu de toi. Merci de nous l'accorder. Merci, Père. Nous croyons que tu nous as écoutés puisque nous avons élevé nos voix vers toi. Que le règne, l'honneur, la gloire ne retourne qu'à toi et à toi seul. Au nom de Jésus, ton Fils bien-aimé. Merci, Seigneur. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Rentrez avec le Seigneur Jésus-Christ dans vos maisons, comme vous avez été rentrés avec lui. Amen.